Donc c'est le professeur Claude Olivenstein qui a ouvert cet hôpital en 1971. Et donc, depuis ce temps, depuis 1971, bien nous avons reçu non seulement des personnes toxicomanes, et puis, depuis quelques années, une nouvelle population, les joueurs de jeux vidéo, et c'est deux particulièrement dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors comment est-ce que dans un hôpital où on reçoit normalement des personnes toxicomanes, on en est arrivé à recevoir des joueurs de jeux vidéo ? Eh bien, tout simplement parce que des parents d'abord sont venus nous faire part de situations. La situation, je vous la décris comme ça, ça va peut-être vous rappeler certains. Un enfant, plutôt un garçon, qui resterait exclusivement dans sa chambre, qui aurait du mal à venir à table quand on lui demande de venir à table, qui, lorsqu'on se lève la nuit pour aller aux toilettes, est encore devant son écran d'ordinateur alors qu'on pensait véritablement qu'il dormait. Et puis, un garçon, donc toujours, qui a du mal à se lever le matin, du coup, par conséquent, dont les parents observent une baisse dans les résultats scolaires. Voilà un petit peu, pour vous brosser le tableau, les situations que venaient nous décrire les parents au début des années 2000. Et bien heureusement, la majorité de ces demandes de parents ne conduisent pas à une prise en charge de joueurs, bien heureusement, et, puisque dans la plupart des cas, on se rend compte que ce qui fait qu'il y a une incompréhension des parents par rapport à l'attitude de leur enfant, c'est souvent dû à ce qu'on appelle le fossé générationnel. Alors, pour expliquer, pour faire vite, en gros, vous êtes certainement beaucoup plus familier avec tout ce qu'on appelle les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Vous êtes, en quelque sorte, né avec. Et les parents, très souvent, ils sont tour à tour fiers de ce que peut faire leur enfant sur un ordinateur, puis peu à peu dépassés, voire coupables, parce qu'ils ont l'impression d'avoir introduit un peu le loup dans la bergerie quand cette activité commence à être envahissante. Et souvent, donc voilà, ils sont beaucoup moins familiers à l'outil d'Internet. Ils utilisent l'ordinateur exclusivement, très souvent, pour leur travail. Et ils n'imaginent pas qu'on puisse faire d'autres choses que travailler avec un ordinateur. Donc ils ont du mal à comprendre ce qui se passe. Et ils ont du mal, effectivement, à comprendre qu'est-ce que c'est que ces jeux vidéo. Alors d'autant plus, je pense... Et il faut bien le noter que c'est la première fois dans la civilisation que ce sont les jeunes générations qui détiennent un savoir et que ce savoir n'a pas été transmis par les anciens. Et ça, c'est une première révolution. Le problème, me semble-t-il, sur cette question du fossé générationnel, il est que les médias relaient en fait une information concernant les jeux vidéo qui est souvent assez négative. Dans l'ensemble... Dans l'ensemble, en fait, dès que ça sera à toi la parole, on t'écoute. Dans l'ensemble, en fait, on oppose très souvent une réalité physique bourgeoise, quelque part, en disant la réalité physique c'est bien, etc. Et on l'oppose au virtuel qui serait pathologisé. Très souvent, quand on parle dans les médias des jeux vidéo, c'est pour parler de violence... et d'addiction. Ça va être d'ailleurs le thème aujourd'hui. Alors, avant d'aller justement vers ce thème, cette question de l'addiction, je voulais vous rappeler que les écrans, plus généralement, les écrans, souvent, ont été à l'origine de nombreux débats, à commencer par le cinéma, l'écran de cinéma. Au début du XXe siècle, quand le cinéma est apparu, y a des gens qui se sont posé des questions à propos des spectateurs qui se rendaient au cinéma. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans une salle sombre, en pleine journée ? C'est bizarre, quoi. Ensuite, ça a été la télévision. Vous avez un peu moins connu ce type de débat, puisque vous êtes plus jeune, mais il y a eu moult débats autour de la télévision, à savoir comment s'en servir, est-ce qu'il faut laisser les enfants devant la télévision, est-ce que ça véhicule pas des idées qui seraient néfastes à leur égard, etc., etc. Ça a été donc l'objet d'énormément de controverses, et aujourd'hui d'ailleurs, dans l'ensemble, les parents ont appris à se servir de cet outil et à en limiter d'ailleurs l'usage pour les plus jeunes, l'exposition pour les plus jeunes. Mais depuis ces deux écrans, il y a surtout eu deux grands changements, me semble-t-il. de changements au niveau à la fois du type de spectacle qui est proposé sur ces écrans et aussi au niveau des spectateurs. Alors, au niveau des spectateurs, ce qui a changé, c'est qu'on n'est plus dans l'image d'une famille qui se réunit le soir venu autour du poste de télévision pour regarder tous ensemble la même émission. On est plus dans des familles où chacun essaye de se créer son propre espace à lui-même. Chacun son écran, pourquoi pas, effectivement. Chacun son espace, en tous les cas. On n'a pas forcément envie de partager le même programme qu'avec ses parents. Ça, c'est un premier élément de grand changement. Donc, chacun essaye d'avoir son propre espace. L'autre élément de changement, je vous le disais, c'est les spectacles. Ben, les spectacles qui nous sont proposés, ils sont de plus en plus interactifs. C'est tout ce qui est reality show, etc., qui sont arrivés en fait à la télévision vers la fin des années 90 et le début des années 2000. Donc une plus grande interactivité. Et tout ça nous amène à l'écran dont il est question aujourd'hui. Et l'écran dont je souhaite vous parler, c'est l'écran d'ordinateur. L'écran d'ordinateur qui permet de recevoir et d'émettre des informations dans le monde entier. Et donc cet écran, il est à la fois, je vous le disais au départ, objet d'enthousiasme, parce que c'est quand même formidable d'avoir la possibilité de communiquer avec le monde entier, d'avoir des informations venant du monde entier. Ça veut dire qu'il n'y a plus de frontières. Sur le net, il n'y a pas de frontières et c'est tout à fait agréable. Et en même temps, ils sont les objets d'inquiétude et donc particulièrement, ils sont accusés d'encourager la violence, la paresse et un comportement pathologique qui s'appelle l'addiction. Alors, d'abord, je voudrais vous parler un petit peu de cette question d'addiction. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que c'est un terme qui est tellement utilisé à la fois par les publicitaires et les médias, qu'en fait, on ne sait plus trop ce qu'on y met. C'est un terme un peu galvaudé, quoi. En gros, pour commencer, il y a la notion de dépendance. La dépendance, elle est inhérente à la vie. Tout à chacun, on est dépendant de multiples choses. Par exemple, moi, je suis dépendante de mon travail, de ma voiture, de mon mari, du fait de faire du sport. Vous aussi, vous avez comme ça un certain nombre de dépendances. Et on peut essayer de définir cette question de la dépendance par un attachement, en fait, à quelque chose d'externe à nous et qui va nous procurer du plaisir. Globalement, c'est ça, être dépendant. Et on va répéter, du coup, cette expérience qui nous a fait plaisir. On reste dans quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la maladie quand on peut passer d'une dépendance à l'autre, c'est-à-dire quand ça ne me pose pas de problème de quitter mon travail pour rejoindre ma vie familiale, quand ça ne me pose pas de problème d'aller à l'école, puis ensuite au sport, puis ensuite, mettons, à la musique, etc. Ça veut dire qu'on reste le maître, en quelque sorte. L'addiction, c'est une autre forme de relation, mais cette fois-ci, on est dans une forme tyrannique, envahissante, extrême et dangereuse. On a affaire à ce qu'on appelle une pathologie de la liberté. On peut dire que l'addiction, en quelque sorte, c'est la perte de liberté de s'abstenir. Ça veut dire que je ne peux pas faire autrement que d'exécuter ce comportement qui tout à la fois me procure du plaisir ou me soulage d'un malaise, mais qui en même temps entraîne des conséquences négatives. C'est très important cette définition de l'addiction parce qu'on a tendance un petit peu à étiqueter les gens « mais toi t'es un addict », etc. Et alors que l'addiction c'est une vraie souffrance en fait. Les gens quand ils viennent dans l'hôpital où je travaille, ils sont en souffrance. Ils voudraient bien arrêter ce comportement qui les envahit, mais ils n'y arrivent pas seuls. Et ça c'est assez important. Donc en gros, l'addiction, si on essayait de lui donner une définition, c'est un processus par lequel un comportement qui peut fonctionner à la fois pour produire du plaisir ou fournir un échappatoire à un malaise interne est caractérisé par une faillite récurrente pour contrôler le comportement. Donc là aussi, on retourne vers l'idée de la perte de contrôle. Et par la poursuite du comportement en dépit des conséquences négatives. Ça veut dire que même quand on est conscient que ça nous fait du mal, eh ben, on poursuit le comportement. Ça, c'est l'addiction. Et qu'est-ce que ça met en évidence ? Eh bien, c'est que on n'est pas addict du jour au lendemain et n'est pas addict qui veut, en quelque sorte. On n'est pas addict du jour au lendemain, donc vous le comprenez, c'est un processus, c'est long, c'est un développement dans le temps, c'est au fur et à mesure que je deviens quelqu'un qui peut être addict, dépendant pathologiquement. Et l'autre élément que ça fait ressortir, c'est que en général, quand on est devenu un addict, eh ben, on est centré sur cet unique comportement, et même on va rechercher ce comportement avec une certaine avidité. Pour les jeux vidéo, je vais vous donner un exemple que me donnent souvent les parents, c'est que leur enfant, il raconte comme ça, il est à peine levé qu'il allume déjà l'ordinateur. C'est la première chose qu'il fait. C'est cette notion d'avidité, de besoin d'y aller tout de suite, quoi. Alors je disais aussi, c'est pas n'importe qui peut devenir addict. Et celui qui a fondé l'hôpital où je travaille, qui s'appelle donc le professeur Claude Olivenstein, qui est décédé depuis, celui qui a fondé cet hôpital donnait une définition de la personne toxicomane, et il disait, c'est la rencontre d'une personnalité, d'un produit et d'un moment socioculturel. En gros, il faut une certaine personnalité, peut-être une certaine vulnérabilité au niveau de la personnalité, un objet particulier présentant des spécificités qu'on appellera addictogènes, d'accord ? Et une rencontre dans un moment socioculturel, et le moment socioculturel dans lequel on est, nous, actuellement, ben, c'est cette révolution cybernétique. Parce que l'invention de l'ordinateur, c'est l'équivalent de l'invention de l'imprimerie. Et vous l'avez certainement appris à quel point l'invention de l'imprimerie a changé en fait la face de notre monde. Donc, il faut imaginer, là on est en plein dans ce changement, donc on s'en rend pas compte, mais ça va avoir des conséquences très importantes pour le futur. Alors essentiellement, quand on parle de cyberdépendance, on parle surtout des joueurs de jeux vidéo. Et particulièrement, pas n'importe quel type de jeu vidéo, on parle surtout de ce qu'on appelle les MMORPG. Tout le monde connaît cette appellation ? En gros, les MMORPG, c'est des jeux de rôle massivement multijoueurs en ligne. C'est ça que ça veut dire, hein ? En gros, quoi. Les MMORPG, il n'y a pas de crèche, je ne peux pas vous l'écrire, donc pour ceux qui ne connaissent pas. Mais je crois que vous connaissez. Alors, pour vous donner un petit exemple, un des premiers MMORPG, ça s'appelait EverQuest. Et quelques mois après sa sortie, on l'appelait NeverRest, ce qui signifie « pas de repos ». Pour vous donner un peu l'ambiance déjà, effectivement, la manière dont a émergé cette notion de cyberdépendance. Il y a même eu, à un moment donné, une espèce d'association qui s'appelait les veuves d'EverQuest. C'était les épouses délaissées, parce que leur mari passait leur temps à jouer sur ce jeu vidéo, qui s'étaient réunies dans cette association. Alors tous ces phénomènes, surtout concernant EverQuest, ils ont surtout eu lieu en Asie. En Asie, on n'a pas la même culture, et les jeux vidéo sont complètement intégrés dans la culture, notamment en Corée, où on retransmet les matchs de FPS, en fait, type Counter-Strike, à la télévision. Un peu comme un sport. Et donc, évidemment, la place des jeux vidéo n'est pas la même, la place de l'addiction aussi n'est pas la même. Pour vous donner une petite idée, on relevait à peu près 8000 personnes addictes aux jeux vidéo au premier semestre 2005 en Corée du Sud. Ce n'est rien de comparable avec les phénomènes qu'on voit ici en France, et c'est ce que je vais vous parler maintenant. Je vais vous parler de ce que je vois, moi, à Marmottan, au cours de ces entretiens. Donc à Marmottan, on a reçu à peu près 200 personnes. Vous voyez que ce n'est pas du tout les mêmes proportions qu'en Asie. On a reçu à peu près 200 personnes qui sont venues par rapport à une problématique qui relevait des jeux vidéo. Alors, comme je le disais tout à l'heure, qui sont-ils ? Ben, des garçons, effectivement. Et au niveau de la moyenne d'âge, je dirais que majoritairement, c'est entre 15 et 30 ans. Et plus précisément, entre 17 et 20 ans, qui viennent le plus consulter. Alors, actuellement, le jeu majeur, le jeu phénomène est majeur, c'est, vous le connaissez tous, j'imagine, c'est World of Warcraft, WoW, avec plus de 11 millions en fait de joueurs dans le monde, hein, ainsi que le déclarait Blizzard il y a quelques temps. Bah, c'est un voyage très accessible, hein, finalement, cette migration vers ces terres inconnues et merveilleuses qui sont proposées dans ce jeu, puisqu'il suffit d'avoir un accès avec un ordinateur, une connexion Internet, et puis hop, le voyage est permis plusieurs fois par jour, plusieurs fois par mois, autant que vous voulez.
De toute façon.
Et seul dans sa chambre, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'ils me racontent un petit peu, tous ces joueurs de jeux vidéo que je rencontre à Marmottan? Ils me racontent tout d'abord leur plaisir de jouer. Ils me racontent les exploits qu'ils effectuent dans ces mondes avec leurs personnages. Ils me racontent leurs performances. Ils racontent aussi leur rythme de vie, le plus souvent donc en décalage. C'est-à-dire que le moment où il y a le plus de joueurs sur WoW, puisque la moyenne d'âge des joueurs sur WoW, c'est quand même 28 ans, c'est à partir de 20h, c'est une fois qu'on a terminé de travailler. De 20h jusqu'à 1h, 2h, 3h, toute la nuit, pour certains, en fait. Donc, un rythme de vie décalé, ils ont tendance à plutôt dormir la journée et être réveillés la nuit. Ce qu'ils me racontent aussi beaucoup, c'est l'importance des relations dans le jeu. C'est-à-dire que dans ce jeu, effectivement, on n'est pas tout seul puisque c'est un MMO. On va rencontrer d'autres joueurs, enfin très exactement d'autres avatars qui représentent des joueurs. On va se rassembler, on va se regrouper dans des guildes, on va échanger, on va préparer des stratégies, etc. Et c'est très important, toutes ces relations sociales qui se sont créées dans le jeu, pour eux. Ce qu'ils me disent aussi, c'est le désintérêt pour toute autre activité, voire pour la société en elle-même. C'est-à-dire que finalement, bah, y a pas grand-chose d'autre qui les intéresse. Sortir, ça les intéresse pas. Aller danser, s'amuser à l'extérieur, faire du sport, c'est pas des activités qui les intéressent. Et la société en général, ils en ont une vision assez négative globalement. Ce qu'ils dénoncent surtout dans cette société, c'est le culte de la performance. C'est cette pression qu'on leur met toujours pour être le meilleur. C'est la compétition, en fait, qui est organisée entre les uns et les autres, qui a tendance un peu à les dégoûter. Et ils ont l'impression que ça se passe très différemment, justement, au sein de leur guilde, où il y a plus de solidarité, en fait, entre les individus. Ce qu'ils disent aussi, c'est leur difficulté à prendre des décisions, à choisir. À choisir entre deux chemins. Ils n'ont pas envie de choisir. Ils voudraient être partout à la fois. C'est ce qu'offre aussi Internet. Hein, l'Internet, c'est le monde des possibles, dans le virtuel. Dans la réalité physique, à un moment donné, quand on vous dit « bon, là, il faut faire un choix », si vous allez sur un chemin, ça implique un renoncement. Ça veut dire que vous ne verrez pas l'autre chemin. Et ce renoncement, ils ont du mal à le faire. Et très souvent, c'est vrai que les périodes de surinvestissement du jeu, elles apparaissent à des moments assez, à des phases existentielles, à des moments assez existentiels. Par exemple, à la période du bac. À ce moment-là, il y a un enjeu qui va être assez déterminant pour le reste de l'existence, et c'est une manière de reculer, de ne pas se confronter en fait à ce défi en quelque sorte, et à surtout ne pas choisir, parce que par la suite on va leur demander on va vous demander d'ailleurs de choisir un cursus scolaire, de faire des choix par rapport à ce que vous voudriez faire, à ce que vous voudriez être dans la vie. Et ça, c'est des questions auxquelles ils n'ont pas envie de répondre la plupart du temps. Ils racontent aussi et surtout peut-être leur difficulté à rencontrer les autres IRL, in real life comme ils disent, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à trouver une place avec les autres dans la réalité physique, pour plein de raisons différentes. Soit parce qu'ils ont été absents longtemps à l'école pour une maladie, soit parce qu'ils ne sont pas très à l'aise dans leur corps. Plein de raisons différentes. Parce que les filles, ça craint, ouais. C'est ça. C'est vrai, non mais c'est vrai. Ils pensent aussi ça. Alors quand ils viennent me voir à Marmottan, le jeu, c'est devenu un boulot à plein temps. Hein. Ils font plus de 35 heures. Souvent, d'ailleurs, dans le fond, le jeu ne les intéresse plus autant qu'avant. Très souvent, ils m'ont décrit la période du leveling, la période où on monte son personnage comme étant une période très intéressante, et puis ensuite, c'est très répétitif. Hein, dans ce type de jeu, on répète les mêmes actions et très souvent, ils en ont assez marre de leur jeu, mais en même temps, ils ne savent pas quoi faire à la place de jouer. C'est une première chose. Ils n'ont pas envie spécialement ni de retourner à l'école, ni de travailler, etc. Ils ne savent pas trop quoi faire. Devant la télé, ils s'ennuient, parce que c'est beaucoup moins interactif finalement que leur jeu. Et puis parce que ça leur permet de ne pas trop penser. Tant qu'ils sont dans le jeu, à effectuer ces tâches, même répétitives, ils ne pensent pas à toutes ces questions existentielles, ils ne pensent pas à se demander alors qu'est-ce qu'ils préféreraient faire dans la vie ou comment accoster justement une fille, par exemple. Donc le jeu, à ce moment-là, il devient un boulot à plein temps, trop répétitif, mais qui apporte aussi des bénéfices. Des bénéfices parce qu'on a une place dans un groupe. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était souvent des personnes qui avaient du mal à trouver une place auprès des autres IRL. Bon, là, dans le jeu, ils ont une place, ils sont souvent reconnus. Et d'ailleurs, ils sont souvent d'excellents joueurs. Ils sont souvent parmi les plus performants dans ces jeux. Alors, à quoi ils sont accros, finalement ? À l'envie de jouer, peut-être. Pas vraiment à l'envie de gagner non plus. Ils sont plutôt accros... Non, à l'échappatoire. Au fait qu'avec ce jeu, ils peuvent échapper à la vie réelle, aux contraintes de la vie réelle, à leur corps, à tout ce qui les effraie en fait dans la réalité physique. Ça, c'est un premier élément. C'est d'échapper à quelque chose. C'est une fuite, en quelque sorte. L'autre élément, et souvent ils en parlent en ces mots, en ces termes, ils disent « oui, je sais très bien, je fuis quand je suis dans ce jeu, etc. » Ils en sont tout à fait conscients. L'autre chose auquel ils peuvent être accros, c'est l'usage des jeux, enfin c'est la fonction cathartique des jeux. C'est-à-dire que, hop, j'explique, la fonction cathartique, on la retrouve aussi dans le théâtre, dans le cinéma, dans la littérature. C'est le fait de mettre hors de soi un certain nombre de pulsions qui peuvent être violentes, qui peuvent être agressives. Alors, on va aller voir justement, par exemple, une pièce de théâtre où il y a un assassinat, et quelque part, ça permet d'exprimer un certain nombre des choses qu'on a en soi, en fait. Ce qu'on appelle être exutoire des pulsions. C'est une mise hors de soi, qu'on retrouve donc dans d'autres pratiques et qu'on retrouve dans les jeux vidéo. Très souvent, d'ailleurs, on accuse les jeux vidéo d'être, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'encourager la violence. Il y a des jeux qui sont comme ça, à l'image, et souvent, pour les adultes, considérés comme extrêmement violents. Counter-Strike, dont je parlais tout à l'heure, dont l'objectif est quelque peu grossier, puisqu'il s'agit de tuer un maximum de personnages ennemis, évidemment, en un minimum de temps, surtout de ne pas se faire tuer soi-même. Counter-Strike, il est souvent montré du doigt par les adultes parce que, alors attention, si mon enfant tue des personnes virtuellement, est-ce que ça lui apprend pas à être lui-même un tueur ? Non. En fait, les adultes font souvent en fait la confusion entre le réel et le virtuel, alors que les adolescents, non, justement. La plupart des joueurs vont vous expliquer que ce qu'ils tuent, c'est un personnage de pixels. C'est pas du tout la réalité et que ça ne les entraîne pas à le faire dans la réalité. Et cet amalgame entre violence et jeux vidéo, je crois qu'il est aussi induit par les médias. Il y a eu un massacre, vous le souvenez certainement, le massacre de Columbine dans un lycée. Vous en avez entendu parler ? Non, c'est pas un chinois, le massacre de Columbine. Le massacre de Columbine, il y a eu un très beau film qui a été fait d'ailleurs par Gus Van Sant à propos de ce qui s'était passé. Je vous raconte rapidement l'histoire. Ces deux jeunes gens, vraisemblablement deux jeunes garçons qui n'étaient pas très bien dans leur peau avec quelques défaillances au niveau psychiatrique, au niveau psychique, qui se sont armés et qui se sont rendus dans leur lycée et qui ont tué une bonne dizaine de personnes et puis qui se sont suicidés à la fin de leur massacre. À un moment donné, les médias se sont dit « mais ces garçons-là, ils ont trouvé l'idée de faire ce massacre dans les jeux vidéo, dans un jeu comme Counter-Strike ». Cet amalgame-là, il est fait très souvent. très souvent entre les jeux vidéo qui rendraient violents. En réalité, effectivement, ils jouaient à Counter-Strike, mais ils jouaient à Counter-Strike en mode divin. En mode divin, en fait, ça veut dire que leurs ennemis sont de toute façon désarmés. Donc c'est très aisé, en fait, de tuer les personnages. Ils se sont servis du jeu, en fait, pour répéter ce qu'ils avaient prévu bien antérieurement dans leur tête. C'est-à-dire qu'ils avaient leur plan bien avant et effectivement, ils se sont peut-être servis du jeu vidéo à un moment donné pour simuler ce qu'ils avaient déjà l'intention de faire. Donc cet amalgame, il est souvent fait, mais il faut, enfin, je ne pense pas que la violence qu'on voit peut impliquer plus de violence agie par soi-même. Enfin, il n'y a pas pour l'instant, en tous les cas, démonstration qu'il y a un lien entre les deux. Les jeux, de toute façon, on le vit comme quelque chose d'hors réalité. Hein, quand on rentre dans un jeu, on sait très bien que ça a ses propres règles et que c'est hors de la réalité. Et souvent, d'ailleurs, dans un jeu, je vais faire ce qui est interdit, ce qui est mal ou ce qui est dangereux. Parce que je sais que je ne peux pas le faire dans la réalité. Un petit peu comme des jeux comme GTA, où c'est un plaisir justement de massacrer ou de transgresser la loi. Parce que justement, ça fait du bien, ça fait plaisir de le faire dans le virtuel et ça évite certainement de le faire dans le réel. D'ailleurs, la plupart des joueurs de jeux vidéo que nous recevons, enfin que je reçois par exemple à Marmottan, on pourrait penser que justement, peut-être c'est des brutes, etc. C'est exactement l'inverse. La plupart du temps, en fait, ceux qui sont des grands chefs de guilde, qui sont très autoritaires, qui ont beaucoup de pouvoir sur les autres et qui peuvent être vraiment autoritaires avec leurs petits camarades, eh bien dans la réalité, ce sont souvent des jeunes gens qui n'osent pas, qui sont plus timides. Ils osent dans le virtuel et puis ils n'osent plus du tout rien dans la réalité physique. Alors, tout à l'heure, je disais, à propos de la définition, justement, de ce qu'est une personne toxicomane, je vous disais, c'est la rencontre d'une personnalité, d'un moment socioculturel et d'un produit. Et je vous disais, un produit dont les caractéristiques sont addictogènes. Hein, donc, sont propices à vous rendre dépendant. OK ? Alors, on peut se demander quelles sont les propriétés addictogènes de ces jeux vidéo. Qu'est-ce qu'ils ont de si spécifique qui fasse que ça accroche autant? Alors, en fait, finalement, les jeux de rôle en ligne, ils proposent une multitude de désirs virtuellement réalisables. Par exemple, vous savez que dans ces jeux-là, on va choisir un avatar. On peut choisir l'apparence de son avatar. Ça veut dire qu'on peut être beau, par exemple. Ce qu'on n'a pas l'impression, peut-être, d'être dans la réalité. Ou moche, si on le désire. On peut être immortel. Hein, puisque dans ces jeux, on ne meurt pas. Ou si on meurt, on est ressuscité. On peut être invincible. On peut dominer. On peut contrôler. Et on peut posséder des objets. Ce qu'on ne peut pas toujours faire dans la réalité. On peut être un autre, par exemple, on peut choisir d'être une femme alors qu'on est un homme, on peut s'exercer de cette manière-là, à essayer, qu'est-ce qui se passe alors si je suis un homme ou si je suis une femme. On peut s'exercer comme ça, dans ce monde virtuel qui a l'avantage d'être toujours réversible. Ça veut dire que quoi que je fasse dans ce monde virtuel, il n'y aura pas de retombées, il n'y aura pas de conséquences dans la réalité. C'est quand même vachement avantageux. On peut protéger, on peut soigner, c'est aussi des désirs qu'on peut avoir, et ça peut se réaliser dans ces jeux. En gros, finalement, très souvent, et c'est ce que me racontent les joueurs de jeux vidéo, ils ont l'impression d'avoir une plus grande maîtrise de leur environnement dans les jeux que dans la réalité. Ils ont l'impression, au contraire, que dans la réalité, tout leur échappe, alors que dans les jeux vidéo, ils ont l'impression de pouvoir contrôler. Ce qui est vrai, puisqu'on maintient cette illusion-là dans le jeu vidéo. Et aussi d'être reconnu comme tel par la communauté, puisqu'on joue à plusieurs. et ce par l'intermédiaire évidemment de leur personnage, hein, leur avatar. Et ce qui rend l'illusion d'autant plus crédible, d'autant plus vraie, puisque évidemment qu'on n'est pas invincible, évidemment qu'on n'est pas immortel, évidemment qu'on n'est pas une femme si on est un homme. Ce qui rend l'illusion d'autant plus crédible, c'est le fait qu'il y en a d'autres qui y croient aussi. C'est tous les autres qui jouent avec moi et qui disent « mais ça existe ce monde-là, c'est possible ». Ce qui fait que l'illusion, là, elle prend une densité, une consistance assez importante qui fait que bah, petit à petit, on peut préférer ce monde virtuel à la réalité. Alors les quatre propriétés addictogènes, on va dire, des MMORPG, des jeux de rôle en ligne, sont les suivantes. L'infinitude, il n'y a pas de fin. Dans World of Warcraft, dans la plupart des MMORPG, avant World of Warcraft, il y avait des AOC, il y avait Lineage, il y avait EverQuest, etc. Il y avait Diablo. Dans tous ces jeux, il n'y a pas de fin. C'est-à-dire que c'est sans cesse qu'il y a des choses à faire par rapport à son personnage, à le faire évoluer, etc. etc. Infinitude et permanence. C'est 24 heures sur 24. D'où le fait qu'il n'y a pas d'horaire universel de repos. Je peux me connecter, il y aura toujours quelqu'un sur la toile qui ira se promener en même temps que moi sur le jeu. J'ai de grandes chances. Et cette permanence, elle peut aussi créer une préoccupation. Ça veut dire que même quand je ne suis pas devant mon écran, je peux penser à ce qui se passe justement dans le jeu. Je peux me demander si mes ennemis et mes amis sont en train de se battre. Enfin, en tous les cas, il se passe des choses alors que j'y suis pas. Et ça, ça peut effectivement créer une préoccupation. On peut être en classe et en train de rêver de World of Warcraft, bien évidemment. Et puis, vous en parliez tout à l'heure, les adjonctions et add-ons. Tout le temps en train de... En fait, les éditeurs de logiciels, parce que c'est eux quand même qui vendent ces programmes... Ils ont pensé aussi à se dire, bon, nos joueurs, ils vont certainement se lasser au bout d'un moment, une fois qu'on a mené son personnage au début dans World of Warcraft. Le level le plus important, c'était 60. Maintenant, après 70, maintenant, on en est à 80. Donc, petit à petit, ils ont rajouté des adjonctions, en fait, qui font qu'il y a des nouveaux territoires à explorer et ce qui rend encore, évidemment, ce qui participe à cette idée du jeu sans fin. La deuxième propriété addictogène, c'est le fait que dans les jeux vidéo, on est dans la certitude. C'est-à-dire que tout est prévisible et gratifiant. Si jamais j'exécute la bonne action, on me donne une mission, je l'exécute, hop, immédiatement après, et ça c'est aussi une caractéristique importante, immédiatement après, je suis félicité. Bravo, vous avez réussi votre mission, etc. Si je l'ai fait comme on me l'a demandé, forcément... j'aurai la meilleure réussite. À l'école, c'est un peu différent. Si je fais le devoir qu'on m'a demandé, comme me disent certains joueurs, d'abord je vais attendre pour avoir mon résultat. Alors ça, ça crée quelque chose de différent. Et comme me disait un de mes joueurs, si la prof m'a dans le pif, de toute façon, j'aurai jamais la meilleure note. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Il y a une subjectivité, évidemment, dans le rapport humain qu'on n'a pas dans le rapport à la machine. Alors oui, la machine, puisque c'est un programme, elle exécute ce programme. Et donc, si vous réalisez les choses comme il faut, et ben, vous allez monter en grade et l'évolution est garantie et gratifiante et immédiate. On ne peut plus attendre. On ne sait plus attendre. Et puis, c'est facile. Dans World of Warcraft, soyons bien clairs, la réussite est indexée sur le temps que vous y passez, pas sur votre talent. C'est comme ça qu'il a été pensé, le jeu. Nous, on a eu l'occasion de rencontrer Jean-Claude Larue, qui est le directeur du syndicat des éditions de logiciels ludiques. Il nous l'a dit clairement. Que, en fait, c'est des jeux chronophages et qu'ils ont fabriqué pour être chronophages. Chronophages, c'est des mangeurs de temps, quoi. Et plus vous y passez de temps, et plus eux, ils sont contents. Ces derniers temps, ça s'est un peu modifié justement avec les dernières adjonctions. Mais au départ, c'était pensé pour que vous y passiez un maximum de temps. Et donc, c'est pas très difficile de réussir. Ça demande un peu de concentration. Mais comme il y a beaucoup de répétitions des mêmes actes, c'est assez simple. Le troisième élément, c'est le caractère d'immersion. Immersion dans le sens où on vous plonge, en fait, dans un univers à travers votre avatar que vous choisissez, que vous bichonnez, que vous entretenez. Parce que l'objectif, quand même, d'un jeu comme World of Warcraft, c'est essentiellement d'équiper son personnage. C'est de réaliser des quêtes pour obtenir, en fait, par la suite... des bonus qui vont vous permettre ensuite d'acheter de l'équipement pour votre personnage. Donc, c'est surtout autour de ce personnage que tout se joue, autour de cet avatar. Donc on est dans un monde enchanté, c'est le monde de Tolkien dans World of Warcraft, donc un monde enchanté avec des mages, avec des fées, avec tout un tas de personnages qu'on ne rencontre pas dans la réalité physique. On remarque que ces mondes sont de plus en plus esthétiques. Je n'ai pas amené effectivement aujourd'hui d'extrait de World of Warcraft pour vous le montrer parce que je pense que vous l'avez tous, pour la plupart d'entre vous, vu un petit peu, ce monde. C'est très esthétique, c'est très beau. Moi, je trouve ça très planant, en fait, comme univers. C'est très réaliste. C'est très réaliste. C'est de plus en plus réaliste. Et on peut imaginer, d'ailleurs... qu'on va développer de plus en plus de technologies qui vont vous donner l'impression d'être dans cette réalité. Dans Minority Report, vous l'avez vu ce film ? Ouais, il porte un masque et il manipule en fait les données, c'est futuriste hein, comme idée, et il manipule les données et on a vraiment l'impression d'être complètement pris par ce monde. Là, actuellement... les fabricants de jeux vidéo, etc., ils essayent de créer des instruments qui font que vous vous y croyez encore plus, pour encore plus renforcer cette illusion que vous êtes dans un autre monde. Et le quatrième élément qui rend les choses, enfin qui fait partie de ces propriétés addictogènes, c'est la communauté et l'interdépendance entre les joueurs. Ça, c'est pareil, hein. C'est les éditeurs de logiciels qui l'ont pensé au départ. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place l'obligation pour les joueurs de se regrouper pour tuer des boss, puisque sinon c'est pas possible de tuer ces monstres. Hein, ils sont toujours plus forts que vous. Vous êtes obligés de vous allier avec d'autres joueurs. Donc de vous allier, de créer donc des guildes qui sont très très organisées. C'est-à-dire très hiérarchisé. Il y a le chef de guilde, il y a ses officiers. Et petit à petit, comme ça, vous descendez dans la guilde avec chacun ses grades. Donc c'est très organisé. Il y avait un jeune qui me disait, finalement, c'est un petit peu comme chez les militaires. Ouais, peut-être. À réfléchir, à vous d'y réfléchir. Alors, au sein de ces jeux, est-ce qui fait qu'on va créer une interdépendance, en fait, entre les joueurs eux-mêmes ? Le truc typique, c'est le joueur qui m'explique. Enfin, les parents qui vont expliquer à une de mes collègues, par exemple, notre enfant ne vient pas manger quand on l'appelle, alors qu'il y a des amis qui sont là à la maison, ou que c'est la tante Miselle qui vient dîner, et que c'est très important qu'il y soit. Parallèlement, le joueur, lui, il va m'expliquer... que lui, il s'est engagé auprès de sa guilde pour être là le vendredi soir à 20h30 pour réaliser une quête. Et que là, il faut être au moins 40. Vous imaginez ce que ça représente, 40 personnes en même temps derrière leur écran. Le problème étant que si je m'absente, la quête n'aura pas lieu. Donc évidemment, le joueur, lui, il se retrouve devant deux situations qui sont un peu embêtantes. Soit je vais au dîner de la tante Miselle... soit je tiens ma parole, celle que j'ai donnée à mes potes sur le jeu, et je vais jouer. Donc il y a aussi une interdépendance qui se crée de ce côté-là. Ce qui se passe et ce qui va rapprocher encore les joueurs, c'est que à l'intérieur du jeu, on va partager des moments d'émotion en fait assez intenses. Au moment des combats, il y a un certain stress parce qu'on a élaboré des stratégies, et on espère que ça va fonctionner. Par exemple. Et puis, à la fois, on va vivre ensemble des émotions très importantes et en même temps, mon corps reste protégé. C'est-à-dire que finalement, c'est bien avantageux cette position d'être derrière l'écran parce que je partage des émotions à travers l'avatar, mais mon identité personnelle, elle est protégée. Je ne dis pas mon nom, je ne suis pas obligée de dire mon nom, je ne suis pas obligée de parler de ma vie, donc je reste protégée. Je fais partie d'un groupe et en même temps, je peux me garder un certain nombre de choses secrètes, par exemple mon corps. les autres joueurs sont pas forcément... Il y avait une joueuse qui m'avait raconté ça. Elle était un garçon, en fait, dans ce jeu. Et elle l'avait jamais dit jusqu'au TeamSpeak, en fait. Donc, le système qui permet de s'entendre. Et à ce moment-là, les autres garçons du jeu, parce que eux, ça n'était que des garçons, se sont retrouvés tout à fait surpris. Que ça soit une fille hein, qui joue. Donc on peut préserver une partie de son identité personnelle, et ça, c'est ça aussi, ça participe en fait à l'accrochage. En plus de ça, toujours nos éditeurs de logiciels, ils ont pensé à un autre petit truc pour que vous gardez bien dans le jeu, c'est que pour continuer à jouer avec les mêmes personnes, il faut que tout le monde ait à peu près le même niveau. Donc si vos copains jouent pas mal, vous êtes obligé de jouer pas mal si vous voulez continuer à jouer avec eux, en quelque sorte. Voilà tout ce qui va participer en fait à rendre ces jeux d'autant plus addictifs. Alors en conclusion, loin de moi l'idée de diaboliser les jeux vidéo, et même je souhaiterais qu'on puisse en parler et qu'on puisse même par exemple critiquer le contenu de certains jeux vidéo, mettre un peu de parole, mettre un peu de distance et considérer les jeux vidéo comme un loisir à l'égal de la musique, du cinéma, du sport, pourquoi pas. Moi, je pense que ça serait très important, et de ne pas diaboliser effectivement toutes ces propositions ludiques qui ont en plus des qualités, puisqu'elles permettent de développer un certain nombre de capacités, la capacité de concentration. Elles permettent aussi d'apprendre à bien se débrouiller avec tous ces nouveaux outils. Elles permettent aussi d'apprendre à collaborer avec d'autres personnes, à mettre au point des stratégies, voire à écrire un CV. Parce qu'effectivement, pour rentrer dans une guilde, dans World of Warcraft, il faut présenter son CV. C'est curieux. Pas forcément. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est que, bien évidemment, et je le répète, c'est pas n'importe qui devient addict. Hein, je vous ai dit par rapport à la personnalité, c'est aussi par rapport aux événements de vie, par rapport à ce qui arrive simplement dans l'existence, le cheminement, la trajectoire de vie. Mais néanmoins, moi, par comparaison et après avoir vu quand même pas mal de joueurs de jeux vidéo, je voulais vous dire que c'est un peu une dépendance qui s'installe de manière passive, les jeux vidéo. C'est un peu comme la cigarette. C'est-à-dire qu'au début, on sait pourquoi on fume, et à la fin, on ne sait plus pourquoi, parce qu'on s'est mis à fumer une première cigarette, et puis on va en prendre une chaque fois qu'une situation, pour nous, se prête au fait de fumer une cigarette. Et on devient fumeur sans même s'en rendre compte. C'est pour ça que je dis que c'est une dépendance passive. On devient fumeur sans même s'en rendre compte. On prend les cigarettes et un jour, on se dit « mince, ça y est, je fume un paquet de clopes par jour ». Pour les jeux vidéo, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on devient joueur forcené, je dirais, excessif, sans même s'en rendre compte. Au début, la plupart des joueurs de jeux vidéo, ils me le racontent, ils me disent « au début, ben non, je jouais pas trop d'heures, je jouais à peine 2-3 heures, et puis petit à petit, par semaine ». Petit à petit, j'ai augmenté mon temps de jeu parce que si je voulais profiter mieux de ce jeu, il fallait que j'investisse toujours plus de temps. Et voilà, petit à petit, ça s'est installé de cette manière-là. Il y a ce côté, on ne se rend pas compte aussi de ce qui est en train de se passer et de s'installer. Voilà, les jeux vidéo sont certainement un refuge idéal, une niche étonnamment viable, mais ô combien appauvrissante, hein, puisque ce dont se plaignent principalement ces joueurs de jeux vidéo que moi je rencontre, c'est quand même du manque de relations et l'isolement en fait dans lequel ils se trouvent. Maintenant, je trouve que c'est très bien de jouer aux jeux vidéo. Voilà, je vous remercie.